six naissances. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une toute nouvelle émission de Cinéscence sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. Aujourd'hui, on vous propose une émission un peu particulière, une émission entièrement consacrée à un compositeur qui a marqué l'histoire du cinéma. Il est d'origine italienne et se nomme Ennio Morricone. Dans le 7e art, la musique n'est jamais là par hasard. Elle accompagne, elle souligne, parfois elle contredit. Elle peut transformer une scène banale en moment inoubliable. C'est presque de la magie, voire de la triche, car elle peut guider l'émotion et les sensations quand l'image seule ne suffit plus. Parce qu'une simple note peut créer la peur, la douceur, la nostalgie. Parce qu'un instrument peut devenir un personnage à part entière, envahir l'espace sonore et nous faire voyager plus loin que l'écran. Et s'il y a bien un compositeur qui a compris ce pouvoir, qui l'a maîtrisé, qui l'a sublimé, c'est Ennio Morricone. Avec lui, la musique ne se contente pas d'accompagner le film, elle lui donne une âme. Ainsi, on va parcourir 5 de ses plus grandes compositions au cinéma, en retraçant par la même occasion leurs histoires respectives. Lorsque Cinema Paradiso sort en 1988, Giuseppe Tornatore signe un film profondément autobiographique. Il y raconte l'histoire de Salvatore, devenu cinéaste, qui retourne dans son village natal après la mort d'Alfredo, le projectionniste qui a marqué son enfance. Le récit se déploie comme un long flashback où l'adulte revisite les lieux et les émotions qui ont façonné sa vie. Aujourd'hui, le film est considéré comme l'un des plus beaux hommages au cinéma. Cette œuvre marque aussi le début de la collaboration entre Tornatore et Ennio Morricone, une relation artistique qui durera jusqu'à la disparition du compositeur en 2020. Pour ce premier projet commun, le réalisateur souhaite une musique capable de porter la nostalgie du temps passé et la tendresse de l'enfance. Le thème principal doit accompagner la relation entre Toto et Alfredo et servir de lien entre l'enfant qu'il fut et l'adulte qu'il est devenu. Pour répondre à cette attention, Morricone choisit de travailler avec son fils Andrea. Celui-ci suit déjà les traces de son père et Ennio, fidèle à son approche pédagogique, aime impliquer ses enfants lorsqu'il sent qu'ils peuvent enrichir une œuvre. Dans un film qui part de mémoire et de filiation, cette collaboration familiale donne à la musique une dimension intime, parfaitement accordée au sujet. Sur le plan musical, le Love Theme repose sur un orchestre de cordes très doux, soutenu par un piano discret et quelques bois légers. La mélodie progresse avec délicatesse, comme suspendue entre la joie du souvenir et la mélancolie du temps perdu. Les cordes respirent avec fluidité, créent une atmosphère lumineuse et chaleureuse. Rien n'est démonstratif, la musique touche par sa simplicité et sa sincérité. Dans le film, le thème accompagne plusieurs moments essentiels, les souvenirs d'enfance de Toto, ses premiers émois amoureux, et surtout la scène finale où il découvre le montage de baisers qu'Alfredo lui a laissé. À cet instant, la musique dépasse l'image, elle devient la mémoire elle-même, la voix du passé, la trace d'un lien indestructible. Elle relie la relation Alfredo-Toto à l'amour du cinéma, cœur battant du film. C'est pour cette raison que le Love Theme s'impose naturellement comme un point de départ de notre voyage dans l'univers d'Ennio Morricone.
Thank you.
après la douceur du souvenir, on avance vers une émotion plus moderne, plus mélancolique, une marche vers le destin. La musique du film Le Professionnel occupe une place si centrale qu'elle en est devenue l'un des symboles les plus durables. Réalisé par Georges Lautner en 1981, le film raconte l'histoire de Josse Beaumont, agent secret français envoyé pour éliminer un dictateur africain avant d'être trahi par son propre gouvernement. Capturé, emprisonné, puis évadé, Beaumont revient en France pour accomplir sa mission et se venger de ceux qui l'ont sacrifié. Ce récit de trahison et de solitude et de fatalité trouve dans la musique d'Ennio Morricone un écho d'une intensité rare, au point que le thème Chi Mai est devenu indissociable de la figure de Belmondo et de la scène finale du film. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, Morricone n'a pas composé Chi Mai pour Le Professionnel. Le morceau est écrit en 1971 pour le film italien Maddalena, puis réutilisé dans plusieurs œuvres. La version que George Lautner choisit pour son film est la version single, publiée en 1978. Une version réenregistrée, plus ample, plus moderne. Les attentes du réalisateur étaient très précises. Il cherchait une musique capable d'exprimer la dimension intérieure du personnage, sa solitude, son sens de l'humour et la fatalité qui pèse sur lui. Chi Mai, dans sa version de 1978, répond exactement à cette attention. Elle possède une ampleur orchestrale qui lui donne une dimension tragique. Lautner y voit un contrepoint poétique à la violence du récit, une manière de transformer l'histoire d'un agent sacrifié en un hommage. Musicalement, Chi Mai repose sur une orchestration épurée, mais d'une grande intensité. Le morceau est couvert par un motif de piano simple et répétitif qui installe une atmosphère de calme fragile. Les cordes du violon apportent une profondeur émotionnelle qui oscille entre la tragédie et la mélancolie. Une basse électrique régulière soutient l'ensemble. Quelques touches de synthétiseur ajoutent une couleur moderne, typique de la fin des années 1970. L'ensemble repose sur une boucle musicale qui donne au morceau une impression d'inéluctabilité. Dans la scène finale, elle transforme la mort du héros en un moment de tragédie noble. Sans elle, la scène serait brutale. Avec elle, elle devient un adieu presque cérémoniel, une suspension du temps. C'est cette fusion entre l'image et la musique qui a fait de Le Professionnel un film culte, et de Chi Mai l'un des thèmes les plus aimés du public français. Voici les morceaux tout de suite. Thank you. Quand la musique devient plus intime, elle se change en nostalgie, celle du temps qu'on ne rattrape jamais. C'est le récit de Il était une fois en Amérique, sorti en 1984. Sergio Leone, qui préparait ce film depuis plus de 10 ans, cherche une bande originale capable d'exprimer la perte, le passage du temps et la mémoire blessée. Dans cette fresque, qui suit un groupe d'amis juifs de New York sur plusieurs décennies, l'histoire d'amour impossible entre Noodles et Deborah constitue l'un des axes émotionnels majeurs. Pour elle, Morricone compose Deborah's Theme, devenu l'un de ses morceaux les plus célèbres. Leone et Morricone se connaissent depuis l'enfance et ont travaillé ensemble sur presque tous les films du réalisateur. Leone demande alors à Morricone de composer le morceau avant le tournage, dans le but de le jouer directement sur le plateau afin de donner aux scènes un rythme dicté par les thèmes, une habitude qu'ils poursuivront tout au long de leur collaboration. Morricone compose donc très tôt Deborah's Theme, une mélodie que Leone juge immédiatement déchirante et pure. Le compositeur explique que le thème lui est venu comme une longue phrase continue, presque sans respiration, pour symboliser un amour qui ne s'accomplit jamais. Il l'avait proposé à Leone plusieurs années auparavant, mais le réalisateur attendait le film qui saurait lui donner tout son sens. Musicalement, Deborah's Theme repose sur une orchestration ample et lyrique. Les cordes installent une atmosphère de rêve, puis les violons déploient une mélodie ascendante, qui semble vouloir s'élever avant de retomber. Les harmonies simples renforcent cette beauté fragile, tandis que les bois apportent une couleur plus intime. L'ensemble crée une nostalgie profonde, comme si la musique elle-même se souvenait d'un amour perdu. Dans le film, le thème accompagne les scènes liées à Deborah et les souvenirs de Noodles. La musique devient un vecteur de mémoire, révélant ce que les personnages ne disent pas. Lors de la danse de Deborah, elle transforme l'image en vision idéalisée. Lors de leur retrouvaille, elle devient chargée du poids des années, soulignant la distance entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. Elle donne ainsi au film une profondeur émotionnelle unique. Je vous laisse écouter le morceau. Morricone, ce n'est pas seulement la douceur et la nostalgie, c'est aussi l'ombre, le mystère, la tension. Et Il était une fois dans l'Ouest est l'un des plus gros exemples. Dans ce film de 1968, Sergio Leone donne à la musique un rôle central. L'histoire suit Jean McBain, une veuve qui découvre le massacre de sa famille, et un étranger énigmatique surnommé Harmonica, dont la vengeance ne prendra sens qu'à la fin du film. Leone conçoit donc son film comme un opéra de l'Ouest. Chaque personnage possède son propre thème musical, véritable signature dramatique. Pour Harmonica, Leone la décrit à Morricone comme une figure presque mythologique, hantée par les traumatismes d'enfance. C'est ainsi que naît Man with Harmonica, l'un des morceaux les plus audacieux du compositeur. La composition repose sur une expérimentation sonore radicale. Le morceau s'ouvre sur l'harmonica de Franco De Gemini, un son brut, tendu, long, presque agressif, comme un cri étouffé. Ce souffle douloureux symbolise le traumatisme du personnage, un souvenir qui ne cesse de remonter. Autour de cette note, Morricone ajoute des cordes dissonantes, des guitares électriques, des percussions métalliques. L'ensemble crée une atmosphère hypnotique, oppressante, qui semble surgir des profondeurs du personnage. Dans le film, la musique ne se contente pas d'accompagner Harmonica, elle raconte son histoire. Chaque apparition du thème rappelle qu'il n'est pas un simple justicier, mais un homme marqué par une blessure ancienne. La scène finale où la vérité de son passé est révélée donne au morceau toute sa signification. La musique devient alors une mémoire sonore, un cri longtemps retenu qui éclaire enfin sa quête. Leone étudie ce thème comme un fil émotionnel qui traverse tout le film. Grâce à lui, la vengeance d'Harmonica prend une dimension tragique, presque mythique. Ainsi, pour pouvoir poursuivre ce voyage, je vous laisse écouter le morceau. Thank you. Après l'ombre vient la lumière. Et dans l'univers de Morricone, cette lumière porte un nom. The Ecstasy of Gold, un morceau qui élève tout, jusqu'à l'extase. Dans Le Bon, la Brute et le Truand de 1966, Sergio Leone raconte la quête d'un trésor au cœur du chaos de la guerre de sécession, où Blondin, Tuco et Setenza s'affrontent dans une chasse au trésor faite de trahison et d'humour noir. Au centre de cette fresque, Leone imagine une scène d'une intensité presque mystique. Tuco courant dans le cimetière de Sad Hill à la recherche de la tombe qui renferme l'or. Pour ce moment, il demande à Morricone une musique qui exprime la frénésie, la révélation et une forme d'extase quasi spirituelle. La composition repose en grande partie sur la voix d'Eda del Orso, véritable âme du morceau. Morricone lui écrit une ligne vocale sans paroles, un chant pur qui donne au thème une dimension céleste. Leone voulait que la musique fasse basculer Tuco dans un autre espace, comme si le temps se dilatait autour de lui. L'orchestre complet mêle ainsi lyrisme romantique, accent sacré et tension dramatique. Musicalement, The Ecstasy of Gold suit une progression ascendante avec un motif de piano et de percussions légères. Des cordes qui s'élargissent progressivement, puis la voix d'Eda del Orso qui s'élève au-dessus de l'ensemble. La boucle musicale donne au morceau une sensation de course irrésistible, tandis que les cuivres renforcent la dimension épique. L'apogée orchestrale traduit parfaitement l'état d'extase du personnage. Dans le film, la musique transforme la scène du cimetière en un moment de pure poésie visuelle. Les travelling circulaires, les plans larges et la course frénétique de Tuco prennent une dimension presque sacrée. Sans la musique, il s'agirait d'une simple recherche désespérée. Avec elle, la scène devient une expérience sensorielle, un moment suspendu où le spectateur partage l'élan intérieur du personnage. Cette fusion parfaite entre l'image et le son explique pourquoi The Ecstasy of Gold est devenu un morceau culte, repris dans d'innombrables films, publicités, concerts et même par Metallica qui en a fait son entrée de scène. Pour terminer ce voyage, je vous laisse écouter le morceau et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Cinescence sur Radio Shalom, fréquence 97.1. immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne.